Alleluia, 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 alleluia. L'Éternel est ma lumière est mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia, 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 alléluia. De qui aurais-je peur? Car mon Père et ma mère pourraient m'abandonner. L'Éternel toujours me recueillera. Alléluia, 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 alléluia. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni je demande à Dieu, c'est mon désir ardent. Je voudrais habiter ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia.
Bonsoir à tous, ça va bien? Nous voilà, c'est encore vendredi, hein? C'est encore vendredi, qu'est-ce que je vous dis? C'est tout le temps vendredi. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 9. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Amen. Vous asseoir. Je suis en train de lire un livre formidable. Les frères Bogdanov, vous avez entendu parler? Ben, il est bien, leur bouquin est vraiment bien. Ça a été recommandé par Elisabeth Bonnet. Et vraiment, il est vraiment bien. Je vous recommande de le lire. Bon, je ne peux pas vous résumer, hein, mais croyez-moi, vous allez vous régaler. Ouh, ça fait du bien. Alors que l'Évangile est prêché partout dans le monde pour servir de témoignage, nous savons que l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, elle est rétablie maintenant par le Saint-Esprit, cette bonne nouvelle, dans des temps difficiles. J'ai encore eu là tout à l'heure un frère, le frère Madi, qui m'a envoyé un message par Internet. Il vit en Côte d'Ivoire, il dit que c'est très difficile là-bas en ce moment. Mais Dieu est en train de rétablir son évangile. Et nous n'avons plus besoin d'avoir la foi pour constater la bienveillance de notre Dieu à notre égard. Plus besoin de foi, pourquoi? Parce que nous savons, nous savons. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a fait connaître ce qu'il voulait, qui était mystérieux. C'était resté mystérieux longtemps. Mais Dieu ayant fait tourner les clés de la connaissance, vous savez qu'à la fin, la Bible nous dit, à la fin, la connaissance augmentera. Si vous lisez le bouquin de Bogdanov, vous allez voir, c'est quelque chose de phénoménal. Est-ce que vous imaginez que dans les années 60, personne ne croyait qu'il y avait eu un Big Bang? Il y avait 3-4 pelés, 2-3 tondus qui croyaient ça. Mais c'est pas vieux, hein? Et puis là, maintenant, ben ça y est, ils y croient. Non seulement ils y croient, mais ça les oblige à croire qu'il y a eu un commencement. Parce qu'avant, ils pensaient que c'est éternel. Voilà, ça a toujours été, ça sera toujours. Non, maintenant, on sait qu'il y a eu un commencement. Et on a trouvé, c'est ce que je suis en train de lire dans ce livre, un écho de ce fameux Big Bang. C'est-à-dire, vous savez, quand un écho, vous comprenez ce que ça veut dire, un écho? Eh bien, on a retrouvé ça, mais ça a été observé. C'est quelque chose de phénoménal. Donc maintenant, on sait, les scientifiques de plus en plus savent, on n'est plus obligé d'avoir la foi, on sait que cet univers qui a été créé, maintenant on sait qu'il a été créé, il y a eu un commencement, il est régi par des lois tout à fait parfaites, magnifiques, et que ces lois, elles existaient avant la création, donc intelligence, donc Dieu. C'est magnifique, non? Et c'est de cela que traite ce bouquin qui s'appelle, je crois, le visage de Dieu, je crois que c'est ça, hein, chérie, le titre. Je le dévore aussitôt que j'ai 5 minutes. Cet après-midi, j'ai accompagné Michou à la mairie pour les papiers de Nicolas. J'ai pris le bouquin pour le lire, ça durait 10 minutes sur le parking. Je trouve formidable ce livre-là. Nous connaissons, la connaissance augmente, mais dans les choses spirituelles aussi, la connaissance augmente. Dieu a fait tourner les clés de la connaissance dans nos cœurs et maintenant nous savons ces anciens mystères dus aux ténèbres qui s'étaient abattues sur le peuple pendant des siècles, ces anciens mystères qui n'étaient pas des mystères, mais simplement c'était couvert par les ténèbres. Mais pour les disciples du premier âge, pour les premiers disciples de l'église primitive, ce n'étaient pas des mystères, ils connaissaient ces choses. Ces anciens mystères, sa volonté, eh bien, il nous l'a fait connaître. Et il nous a fait connaître les mystères de sa volonté conformément à son plan. Il a un plan. On vient de le lire. Dieu avait fait un plan. Avant de créer l'univers, il avait fait un plan. Avec des lois. Et puis ensuite, il a créé. Il y a eu ce qu'ils appellent le Big Bang. Vous vous rappelez toute cette série de prédications? Je crois que c'est en 2006 que j'ai fait cette série de prédications qui s'appelle le Big Bang. Vous pouvez retrouver ça sur Révélation Bible. Elles sont toutes là encore, le Big Bang. Et avant de nous sauver aussi, avant de nous sauver par Jésus-Christ, il avait un plan avec des lois, des règles, des ordonnances. Et ce plan, eh bien, il nous l'a fait connaître. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on sait comment ça marche. Il a fallu qu'il y ait la réforme et toutes ces choses. Et petit à petit, la révélation est venue. Dieu a révélé des choses nouvelles afin que son peuple marche dans la lumière. Dieu, avant toute chose, il a un plan, c'est-à-dire un projet. Et c'est un projet bienveillant. C'est ce qu'on vient de lire. La bienveillance, c'est synonyme de générosité. Si vous allez regarder dans le dictionnaire, c'est synonyme de générosité. Vous savez que chaque mois, nous avons un mot que nous étudions dans la communauté. Les parents parlent avec leurs enfants. Et ce mois-ci, il y a deux mots. C'est générosité et sensibilité. Alors ce soir, je vais vous parler là-dessus. Puis ensuite, vous allez pouvoir réfléchir et parler entre vous dans les familles. Et puis faire le point sur cela. Pas seulement sur ce que je dis, mais disons que ça ouvre une porte. Dieu, notre Père, est bienveillant, c'est-à-dire généreux. Il faut savoir ce que ça veut dire généreux. Dieu donne largement. On va toujours dire que quelqu'un est généreux parce qu'il donne du pognon. Mais non, non, c'est pas que ça. Hein. Nous qui sommes les enfants de Dieu, donc il est notre Père, et il y a en nous des gènes spirituels, des gènes moraux, c'est-à-dire des gènes. En fait, nous avons en nous quelque chose d'origine divine, étant ses enfants. Que trouvons-nous dans le mot générosité? Eh bien, dans le mot générosité vient d'un mot latin qui se dit generorus. Generorus qui signifie, tenez-vous bien, de bonne race. Généreux, ça veut dire de bonne race. Ça ne veut pas dire qu'il donne du pognon, ça veut dire de bonne race. Un enfant de Dieu, il a en lui la nature de son Père, sous forme de semence, c'est vrai, et nous avons nous-mêmes à développer cette semence, nous avons à développer cette nature, ces traits de caractère divin qui sont en nous. Et une personne généreuse, c'est une personne de bonne race. C'est les mots. Les mots signifient ça. C'est-à-dire, une personne généreuse, elle va avoir des sentiments nobles, elle va avoir des sentiments désintéressés, aussi bien quand elle donne que quand elle reçoit. Jésus, il n'a jamais fait les choses avec mesure. Il a tout donné. Il a même donné sa vie. La Bible dit que la vie est dans le sang. Il a versé son sang généreusement jusqu'à mourir pour nous. Et nous prenons le pain, le vin, pour faire un rappel de notre engagement divin. Lorsque nous nous sommes fait baptiser, on prend le pain, le vin représente le sang de Jésus-Christ. Le vin, c'est donc le symbole de son sang, et c'est un sang donné généreusement. Vous savez ce qu'on dit d'un vin généreux? Vous avez entendu cette expression, « Ah, ce vin, il est généreux ». Qu'est-ce que ça veut dire un vin généreux? Eh bien, un vin généreux, c'est un vin qui est riche en saveur, riche en goût, et aussi qui a un fort taux d'alcool. Un disciple de Jésus, il est immergé dans la vie de Jésus, il est immergé dans le sang de Jésus-Christ pour sa purification, mais aussi pour l'ivresse. Quand la Bible nous dit qu'il ne faut pas être s'enivrer de vin, mais au contraire être rempli du Saint-Esprit, il y a une ivresse à être rempli du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes comme ivres, hein, les premiers disciples, ils titubaient même. Mais il y a une joie de vivre. Vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, il est écrit « Tu ne touches pas à mon huile et à l'huile et au vin. » L'huile, c'est le Saint-Esprit, et le vin, c'est ce qui provoque l'ivresse dans le Saint-Esprit. La vie abondante. Voilà ce qu'il y a dans le don que Jésus nous a fait. La vie généreuse, la vie abondante. Une vie avec de la saveur, une vie qui est tellement généreuse qu'on ne la garde pas en soi, mais elle jaillit de nos cœurs jusque dans la vie éternelle. C'est loin ça, jusque dans la vie éternelle. Dieu donc est généreux, c'est-à-dire noble, large, et nous ses enfants, eh bien, nous sommes de sa race, nous sommes appelés à donner notre vie généreusement. Alors évidemment, il y a un commencement à tout, mais il faut comprendre qu'il y a un plan pour notre vie, et dans ce plan, il est normal que nous savons que nous devons faire ce que nous avons à faire avec largesse et avec noblesse. Il faut savoir qu'on ne va pas rester comme on est aujourd'hui, mais on va encore progresser dans ce domaine-là. Faire ce qu'on a à faire avec noblesse, avec largesse, sans petits calculs étriqués dictés par la paresse ou dictés par la peur ou dictés par l'économie de notre vie, c'est-à-dire par l'égoïsme. Voilà ce que doit devenir un fils et une fille de Dieu. Une personne manifestant son rang, sa noblesse, montrant par ses attitudes le don de sa vie qu'il est véritablement de bonne race. Un enfant de Dieu est un généraux russe. Vous allez vous souvenir, on est des généraux russes. Voilà, un nouveau mot maintenant, on va se mettre à parler latin. Comme notre Père Céleste est un généraux russe, nous sommes des généraux russes. Si sa nature généraux russe a été étouffée, si votre nature généraux russe a été étouffée à cause dans votre vie passée, dans le monde, dans le péché, eh bien voilà, Jésus dit, toutes choses maintenant sont nouvelles. Bon, ça a été étouffé, vous avez été écrabouillé, vous êtes devenu peureux, vous êtes devenu craintif, vous êtes devenu réservé, vous êtes devenu des gens qui s'ouvrent pas, qui ne répondent pas autour de lui. Mais maintenant, toutes choses sont nouvelles. Et le caractère divin est en toi et tu vas commencer à croître. Et le généraux russe doit apparaître. Amen. Dans le mot généreux, il y a le mot génos. Vous voyez que le français, on dit, ah, le grec, l'hébreu, le français, c'est formidable. Il a des sources extraordinaires. Le mot génos, grec, ça veut dire race. Vous êtes, vous, enfants de Dieu, génétiquement différents des fils du serpent. La génétique, c'est la science de l'hérédité génétique. La génétique, elle étudie la transmission des caractères anatomiques et des caractères fonctionnels entre les générations d'êtres vivants. Et nous sommes des êtres vivants. Ce qui est génétique, c'est ce qui a trait à la Genèse, à notre commencement. Qui êtes-vous? Eh bien, vous êtes un fils de Dieu. En Christ, vous êtes un Dieu. Vous êtes d'origine divine. Vous êtes enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, vous êtes des dieux. Bon, mais vous mourrez comme des hommes. Mais nous avons tout cela en nous. Il faut arrêter de croire qu'on n'a pas ça en nous. Croyez que vous avez ça en vous. La connaissance augmente maintenant que je vous l'ai dit. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez parce que je vous l'ai dit. Et il faut que vous croyiez ça. On ne peut pas croire une chose qu'on ne connaît pas. Mais à partir du moment où je vous dis une chose, il faut que vous mettiez la foi dessus. Et vous commencez à croire et ça va se manifester. En vous, il y a ce qui est en Christ. Alors écoutez bien ça. La Bible ne nous dit-elle pas que nous avons tout pleinement en lui? Oui, nous avons tout pleinement en lui. Mais vous allez le développer avec l'âge. Et ça, le fait de développer avec l'âge, ça apporte un mot, ça apporte un nom, il y a un mot. On appelle ça le génétisme. Le génétisme. Psychologiquement, vous avez les traits de votre père, mais ils se développent avec l'âge. C'est du génétisme. Vous avez commencé par naître de nouveau. La vie ancienne s'est passée. Tous les vieux trucs. Ah oui, mais moi, vous savez, moi, j'ai hérité de mon père un sale caractère, ou j'ai hérité de ma mère, j'ai une vieille râpe, ou j'ai hérité. Non, 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 non. Les choses passées, c'est fini. On met ça de côté. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, c'est le généreux russe que vous allez manifester, la générosité. De faire les choses largement. Vous avez commencé par naître de nouveau, et puis vous avez continué par manger de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire vous avez lu la Bible, vous avez écouté des prédications, vous avez appris des choses, et cela a nourri vos capacités. Ces capacités qui sont en vous, c'est sous forme de capacités, mais ce n'est pas encore mûr, il faut que ça grandisse. Et ces capacités, à force d'entendre la parole de Dieu, à force d'apprendre, quand on connaît quelque chose, après on dit « je crois » ou « je ne crois pas », mais si on croit, alors ça augmente les capacités qui sont en vous. Elles se musclent, elles se développent. Or, il y a des chrétiens qui se complaisent dans une vie de bébé spirituel, et c'est ça le grand problème. Ils aiment le lait, c'est bon le lait. Mon petit-fils, qui va bientôt avoir 30 ans, non, c'est pas vrai, quelques mois, à peu près 2 ans, je crois. Eh bien, il aime le lait. Le soir, quand il est un peu fatigué, on lui dit, viens, on va boire le lait. Ah, ça y est, il est tout content. Ah, le lait, c'est formidable pour un bébé, le lait. Et moi, on ne ferait jamais boire un verre de lait. Je suis un peu comme ma mère, je déteste. Brrr. Il aime le lait. Et aussitôt, beaucoup sont comme ça. Aussitôt que vous essayez de leur donner à ces bébés spirituels une nourriture un peu plus solide, ah, ça coince. Ils la rejettent. Ça ne ressemble pas à leur bouillie habituelle. Et puis, ça demande un effort. Il faut mâcher. Ça demande des efforts aussi pour digérer. Et puis, ça a un goût différent. Alors, est-ce que c'est vraiment la bonne nourriture, puisque ça a un goût différent? Est-ce que c'est vraiment de la nourriture ou il est en train de me faire une farce, mon papy, en me donnant de la rissa? Non, je ne vous donne pas de la rissa, mon petit-fils.
Pas encore.
Alors, ils aiment recevoir une nourriture qu'on peut avaler sans avoir besoin de faire marcher les dents. Et vu la bouillie, je gloupe, hein, c'est facile à avaler. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, puis ils aiment ça. Il ne faut pas leur donner plus, ils veulent, c'est bon, mais c'est bien. C'est vrai que c'est une bonne nourriture. C'est nécessaire au commencement, mais après, il faut aller plus loin. Après, il faut aller plus loin avec la vie de Dieu. Parce que si vous mangez toujours de la nourriture pour bébé, ben vous allez rester un bébé dans votre vie, dans votre façon de vivre, dans tout. Vous allez être un bébé, et ça, c'est grave. Une église n'a pas la vocation d'être éternellement une pouponnière. Pas du tout. À la communauté, je dis ça pour ceux qui sont en Afrique et qui nous regardent, dans notre communauté, on a toujours des nouveaux bébés. Mais on n'a pas de vieux bébés. Ça n'existe pas. Des vieux bébés rondouillards qui sont là, puis il faut leur donner la béquille tout le temps, ou le biberon spirituel, non. Nous devons manger, même si au début ce n'est pas agréable, nous devons manger de la nourriture solide pour devenir solide. Dieu a besoin de gens solides. Il veut que nous devenions comme lui, comme le Père. Il nous faut donc une nourriture solide. Les bébés ne sont pas généreux. Quand on voit un bébé qui commence à tendre les choses qu'il a pour les donner à sa maman, à son papa ou à quelqu'un, on dit « Ah !» Il commence à grandir, parce qu'il ne ramène pas tout à lui. Il partage, il commence à être généreux. Et c'est là qu'on en arrive au deuxième mot que j'avais choisi pour vous de ce mois d'avril, c'est le mot sensibilité. Comment ça peut coller ensemble? Un bébé, il n'est sensible qu'à lui-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste un échelon nécessaire dans sa croissance. Mais il ne faut pas qu'il reste là. Il ne faut pas qu'il reste là, sinon ce n'est pas normal, il y a un problème. Très vite, le bébé, il devient sensible au monde qui l'entoure. Il regarde, il observe. Il est aussi affecté par ce qui se passe à l'extérieur. Quand il est tout petit, bébé, non. Et c'est grâce à sa sensibilité qu'il commence à devenir donc réceptif, mais aussi accessible. On peut commencer à avoir une relation avec. Alors, à mon avis, c'est mon avis, hein, maintenant je ne suis pas un psychologue, hein. Peut-être que si un psychologue professionnel m'écoute, il va dire, oh, il se plante celui-là, j'en sais rien. Mais à mon avis, la sensibilité n'a pas forcément à voir avec nos sens. Parce que vous avez des gens qui ont les cinq sens qui fonctionnent parfaitement, mais qui sont déséquilibrés dans leur sensibilité. Vous avez des personnes qui ont des cinq sens qui marchent aussi parfaitement, mais qui sont équilibrés dans leur sensibilité. Il y a des chrétiens qui sont même atteints de sensiblerie aiguë. Et puis vous en avez d'autres, ça ne leur fait rien du tout. Hein, ils ne sont pas sensibles au fait que chaque jour, il y a des milliers de personnes qui vont en enfer parce que simplement, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, jamais personne ne leur a témoigné, et puis ils vont en enfer. Comme ça. Ils ne sont pas sensibles à ça. Vous voyez ? Les deux sortes. Trop sensibles ou pas assez. Alors, c'est en pensant à toutes ces choses-là que j'ai désiré prendre ces deux mots à étudier et à méditer pour le mois d'avril. Frères et sœurs, je vous exhorte à aller sur vos genoux et demander à Dieu, notre Père, de régler votre sensibilité, de la régler. Parce que déséquilibré dans notre sensibilité, on ne peut pas être généreux spirituellement. On peut être généreux, mais ce n'est pas spirituel. C'est une générosité qui est charnelle, qui est déséquilibrée. Aux yeux de Dieu, c'est une générosité qui va être ternie parce qu'il y a quelque chose de malsain dedans. N'oubliez pas que nous avons à vivre et à agir selon la volonté écrite de Dieu qu'il a rétablie aujourd'hui. Alors, regardons comment Dieu, lui, il se montre généreux et faisons comme il veut. Comment il se montre généreux? Alors là, je sais que je vais faire sauter au plafond, pas les frères et sœurs de la communauté, parce que vous êtes au courant depuis tant d'années que je vous enseigne ces choses, mais peut-être si vous écoutez pour la première fois, vous allez sauter au plafond. Comment Dieu se montre-t-il généreux? Eh bien, selon l'élection. Au verset 11 de ce chapitre d'Éphésiens qu'on vient de lire là, Paul y continue, après avoir dit, on peut le lire directement dans le texte, hein, après avoir dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, il revient, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Quand ça? Un autre texte nous dit, dès avant la fondation du monde. Alors mes frères et sœurs, en toute chose, nous devons agir comme Dieu agit. Il a enlevé le mystère, il a révélé les choses pour que nous comprenions quel est le mystère de sa volonté. Étant ses héritiers, nous avons donc le pouvoir divin de prédestiner nos actions, de prédestiner nos réactions, de prédestiner les gens, de prédestiner les choses. Mais on l'a naturellement sans y réfléchir. Là, je parlais avec Eric et Mélodie au sujet de leurs trois enfants. Et ils m'ont dit, eh bien, les études des deux premiers sont déjà, l'argent est déjà à la banque. Ils ont prédestiné leur enfant. Pourquoi leur enfant et non pas, il y a des tas d'enfants, hein? Leur enfant. Vous voyez, nous prédestinons aussi les gens, les choses et tout. Un disciple, mes frères et sœurs, qui a une vie de prière, va se laisser inspirer à choisir, à prédestiner comme le Père le veut, parce qu'il va comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu lève les mystères. Et quelqu'un qui a une vie de prière, qui est en communion avec Dieu, qui n'est pas un bébé qui veut simplement sa bouillie, mais qui est accessible et qui est attentif à autre chose qu'à lui tout simplement, il peut recevoir de Dieu la pensée pour savoir comment choisir, comment prédestiner, comment désigner les gens, les choses, les actions à poser. Dieu est bienveillant, c'est-à-dire généreux, mais pas sur des coups de cœur. Pas sur des coups de cœur. Selon un plan bien déterminé. C'est ce qu'on vient de lire. Et il fait tout comme ça. Par d'abord le plan et ensuite il agit. En désignant les héritiers. C'est-à-dire, il y en a qui ne le sont pas. Comment pensez-vous que nous sommes appelés à vivre ici-bas? Eh bien, comme il vit, lui, comme il fait, lui. Vous voyez qu'on a du travail encore. On a ça sous forme de capacité, mais il faut le développer. Et ce n'est pas en mangeant de la bouillie que vous allez y arriver, mais c'est en mangeant des choses plus solides. Au début, c'est vous dire, ah, j'aime pas cette parole, oh là là là, c'est anti-biblique, c'est pas juste, c'est pas bon, je veux pas de ça. Si, prenez-le. Mastiquez-le bien, méditez-le bien, réfléchissez-y, avalez-le, vous allez voir, vous allez bien le digérer et ça va vous développer. Qu'est-ce que Jean nous dit? Dans 1 Jean 3,17, il nous dit « Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. » Si nous sommes comme il est, nous avons à agir de la même manière. Il prédestine, nous prédestinons. Vous voyez mes frères et sœurs? Vous voyez? Mais nous prédestinons en communion avec lui, en ne faisant pas notre propre volonté, mais sa volonté. Parce que rien n'est fait en dehors de son plan, en dehors de sa volonté. Il va même jusqu'à dire, seuls ceux qui font la volonté du Père seront sauvés. Faux. Alors, frères et sœurs, développons en nous-mêmes ces attributs divins, mangeons la parole de Dieu, même celle qui nous paraît indigeste, prenons-la, mangeons-la, nourrissons-nous de cela, développons, donnons à cette parole qui a, elle a le pouvoir de développer nos capacités divines. Alors, mangeons, nourrissons-nous de ça. Je sais bien, on peut se nourrir d'un tas de choses. Moi aussi, je lis le journal, moi aussi, je lis les Bogdanov, moi aussi, je regarde des films. Là, aujourd'hui, je me suis encore payé un film. Devinez ce que c'est le film que je me suis payé. Donc voilà, aussi, je mange des trucs bizarres, rigolos. Mais il y a une nourriture, il faut s'en gaver. Premièrement, c'est ça qu'il faut rechercher. Les choses qui concernent le royaume et la justice de Dieu. La nourriture qui est véritablement solide. Vous savez, le mercredi soir, Michou et moi, on invite des frères célibataires chez nous à manger. Et on mange toujours, toujours, c'est toujours meilleur que la dernière fois. La dernière fois, c'était notre frère Franck qui nous a fait un poulet à l'ananas. Waouh, c'était vraiment délicieux. Mais avant le repas, boum, poulet à l'ananas, qu'est-ce qu'il y avait? Des tas de petits machins complètement inutiles, mais c'était tellement bon, c'était agréable, des petites olives, des petits machins, des petits trucs. Hein? Voilà, on a le droit de manger ces petits trucs, des petits bonbons, c'est-à-dire on a le droit d'aller regarder sur Internet des trucs, des informations, des machins, des choses. On a le droit de jouer, on a le droit de s'amuser. Mais si vous prenez plus d'heures à ça qu'à la parole de Dieu, au royaume et à la justice de Dieu, vous allez rester des bébés. On va vous gaver comme ça, avec de la bouillie jusqu'à la fin des temps. Ouais. Eh oui, c'est dommage pour vous, et c'est dommage surtout pour la gloire de Dieu, parce que vous avez vu en fin de compte, bon, il nous a destinés à être ses héritiers, selon sa volonté, mais pour quelque chose de très précis, pour servir à célébrer sa gloire. Vous voyez, mes frères et sœurs, pensons-y, et si nous en avons besoin, convertissons-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Je te prie que nous puissions agir tel que tu veux que nous agissions, que nous soyons sages et que nous ne devancions pas les étapes, mais que nous montions sur cette échelle, que nous gravissions les échelons, que nous prenions notre rôle au sérieux et que nous puissions dire déjà bien que quoique jeune, Jésus n'avait que 12 ans, il disait « Ne savez-vous donc pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mon Dieu, je te prie que chacun ici, chaque jeune, chaque adolescent, chaque enfant puisse se rendre compte des capacités divines qui sont en lui, en elle, et qu'il se mette à s'occuper, non pas simplement de ses petits bibis, de ses petits machins, mais du royaume et de la justice de Dieu en premier lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.